Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à ce séminaire Collège de France au PHE dédié au Livre des Rois de Ferdowsi. Pour cette avant-dernière séance, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon amie et collègue Delphine Miroudot, qui est en charge des collections de l'Iran médiéval au Musée du Louvre, au département des arts de l'islam. C'est une iranologue spécialiste formée en art de l'islam, une discipline qu'elle enseigne aussi à l'école du Louvre depuis de nombreuses années. C'est une habituée des collections iraniennes, des monuments, des musées. Elle voyage très souvent en Iran pour découvrir de nouvelles collections. Et ses voyages l'ont conduit à se spécialiser sur la céramique fine iranienne, et plus particulièrement sur la céramique à décor de lustre métallique. Elle va nous en dire plus dans un moment. Et cet intérêt pour la céramique, associé à celui du décor architectural, l'a encouragé à lancer un projet de recherche international consacré aux carreaux lustrés iraniens des XIIIe au XIVe siècle, ceux-là même qu'elle va à l'instant nous présenter et qui ont permis au champ renommé de sortir hors du livre. Je lui laisse la parole et je la remercie pour sa présence.
Bonjour à tous. Je remercie Samra pour m'avoir invitée à parler du Shahnameh hors du livre, c'est-à-dire des témoignages artistiques, objets ou décors architecturaux présentant des inscriptions ou une iconographie issue du grand récit épique. Alors, je vais aborder ce très riche thème à travers les pièces conservées dans les collections du département des arts de l'islam, du musée du Louvre, des objets ou des carreaux de revêtement architectural qui portent soit directement des vers transcrits ou des scènes du Shahnameh. Et j'avoue que je n'ai pas résisté à inclure quelques exemples notables, voire exceptionnels, d'autres grandes collections. Je tenais aussi à vous préciser que je ne suis pas une spécialiste du Shahnameh même, du texte, et que je viens modestement et avec beaucoup de plaisir témoigner de ce phénomène qui touche plus particulièrement la production artistique du monde iranien entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle. Et ce phénomène s'intensifie, vous allez le voir, tout particulièrement à la période mongole sous la dynastie des Ilranides. Alors, en guise d'introduction, je souhaitais brièvement resituer l'émergence de ce phénomène, donner quelques clés culturelles. Alors, comme vous le savez, j'imagine, la dynastie des Samanides, d'origine iranienne, a commandé plusieurs versions du texte du Shahnameh au Xe siècle. La première étant une compilation en prose et la seconde une version inachevée en vers, commandée par le poète Dariri. Et c'est sous leur pouvoir que Ferdowsi commence sa propre composition, qu'il achève sous le pouvoir Ghaznavide en Iran oriental à la fin du Xe siècle. Ses mécènes s'affirment ainsi gardiens de la tradition historique iranienne. Et c'est un moment où le persan est certes la langue de la cour, mais commence aussi à remplacer l'arabe dans l'administration. Au moment de l'affaiblissement de la dynastie des Samanides, deux dynasties turques entrent sur la scène du pouvoir en Iran oriental, les Kararanides et les Ghaznavides, et ils embrassent immédiatement la culture persane, accueillent des poètes persans à leur cour. En gros, voilà, ils se persianisent. Le phénomène culmine à la cour Ghaznavide au XIe siècle, quand est promulguée une généalogie fictive les reliant au monarque sassanide Yazdegerd III. Ils n'étaient pas les premiers à le faire. La dynastie des Bouyides, une dynastie originaire des montagnes du sud-ouest de la mer Caspienne, l'avait fait avant eux. Les Bouyides sont connus parce qu'ils ont osé prendre Bagdad en 945, ils ont osé mettre le califat abbasside sous tutelle, et eux aussi élaborèrent une généalogie sassanide et firent revivre pour la première fois à la période islamique le prestigieux titre de Shahenshah, roi des rois. Voilà, c'est quelques éléments de contexte historique pour vous illustrer le climat culturel entre 950 et 1150, période qui préside à l'émergence progressive d'inscriptions en persan dans le contexte artistique et qui révèle en fait les enjeux qui sont liés à l'emploi de ces vers persans dans les monuments architecturaux sur les objets. Alors sur ce thème, je vous renvoie à l'ouvrage de Bernard O'Kane qui est paru à New York en 2009 et qui est intitulé « The Appearance of Persian in Islamic Art ». Il sera peut-être possible de mettre une bibliographie sur le site du collège.
Peut-être, oui.
Bon, voilà, je mettrai. Voilà, c'est ce que je me suis dit, comme je n'avais pas eu le temps de la compiler. Alors, même si de nombreux témoignages ont été perdus, on constate, pour la période bouillide, par exemple, que les rares exemples préservés d'inscriptions monumentales ou d'inscriptions sur des objets, pour ceux qu'on conserve des métaux, des textiles, emploient la langue arabe. Donc, à une période où vraiment on essaie de trouver des liens avec la culture persane, tout de même, il y a cette tradition, on continue à employer l'arabe. Selon Bernard Hocken, un des premiers exemples connus d'une inscription en persan, transcrit avec les caractères arabes, c'est une coupe à boire en argent conservée à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'est une coupe très simple, malheureusement il n'y avait pas de photo sur le site de Saint-Pétersbourg, mais voilà, il y a un distique poétique sur cet objet. Et malheureusement, comme il s'agit d'un objet en argent, on ne peut pas évaluer quelle était la quantité de la production de ces objets-là. Comme vous le savez, l'argent très facilement recyclé a disparu. Donc pour ces périodes, jusqu'en 150, on ne mesure pas en fait à quel point ces inscriptions en persan étaient présentes sur les objets. Je souhaitais aussi mentionner un des rares exemples de palais préservés pour la période 950-1150, dont le décor présente des inscriptions poétiques en persan, dans un style proche du Shahnameh. Il s'agit du palais de Razna, construit en 1112 par Massoud III. Et dans la cour centrale ont été mis au jour 44 plaques de marbre, au fil desquelles court un poème qui reprend le même maître que le Shahnameh. Dans 2 semaines, j'imagine que Viola Alegranzi reviendra très probablement sur ce très important exemple. Alors, ces éléments, parce que je voulais vraiment que vous ayez l'idée que c'est sous des dynasties turques et dans les marges orientales de l'Empire islamique qu'on observe les balbutiements du phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, l'émergence du persan, et tout particulièrement dans le cadre de ce séminaire, du Shahnameh dans la production artistique. Alors, il faut attendre la seconde moitié du XIIe siècle pour que la poésie soit de plus en plus récurrente au sein des inscriptions, inscriptions qui se font de toute façon de plus en plus présentes, que ce soit à côté de la poésie, des versets coraniques ou des formules de vœux. Plus présentes, donc, je vous l'ai dit, sur les objets, dans le décor architectural, principalement, on va le voir très rapidement, un décor architectural de céramique. Et en ce qui concerne les objets, ce phénomène touche les pièces de forme, la vaisselle de céramique, ainsi que la production de métal, à une période où se développe pour le métal, vous verrez dans un instant aussi quelques exemples, la technique décorative de l'incrustation. Sur un support de métal, on incruste des plaques d'argent ponctuées de cuivre rouge et d'or, ce qui permet de faire vivre un riche décor. Alors j'ai choisi d'aborder dans un premier temps le décor architectural, même si les premiers témoignages que je vais vous présenter ne sont pas les premiers jalons chronologiques de la tranche 1150-1350. Mais on est vraiment au cœur du sujet avec ce décor architectural. La poésie est très présente au sein des inscriptions qui courent sur le pourtour d'étoiles et de croix en céramique, dont les premiers jalons datés s'inscrivent dans les années 1260 sous la dynastie des Mongols Ilkhanides. Ici, je vous présente un panneau donc, de 5 carreaux, mais on a une plus grande quantité de carreaux présentés dans les salles. Je vais vous montrer une vue dans un instant. Je voulais vous dire un mot sur ce décor architectural de céramique. Ces décors étaient destinés à l'intérieur des monuments. Ils étaient disposés en lambris à la base des murs, souvent couronnés d'une frise. Et pour cette période, ce sont essentiellement des carreaux qui utilisent une technique qu'on appelle la technique du lustre métallique. Et je me suis dit qu'un point technique serait peut-être intéressant pour que vous compreniez les propriétés optiques de ces décors, parce qu'à mon avis, leur choix n'est pas du tout anodin au sein de monuments religieux, funéraires, qui sont en général des monuments religieux funéraires liés à des personnalités du chiisme ou du soufisme. Alors, ce décor, eh bien, c'est un décor qu'on peint sur une glaçure cuite préalablement à l'aide d'oxyde de cuivre et d'argent. Et la propriété optique de ce décor, bon, je vous la montre sur des tessons ici plus anciens qui viennent de Suse, mais j'avais eu l'occasion de pouvoir effectuer ces photos-là, c'est que sous un certain angle et un seul, qu'on appelle la réflexion spéculaire, on a un reflet lumineux, intense, saturé de couleurs. Seulement un angle, et voilà, vous avez un petit schéma qui vous montre qu'il faut que la lumière incidente et le point qu'on regarde sur l'objet soit équivalent, son angle, à celui du regard et de l'objet. Enfin, ça me paraît important de comprendre ça, parce que dans des monuments, là c'est un peu scientifique, dans ces monuments, il y a du soufisme, vous comprenez que le concept d'apparente cachée, de ces reflets qui se révèlent ainsi, bon, le choix de la technique n'est pas seulement un choix qui est là pour être un choix ostentatoire et pour montrer la richesse du commanditaire. Pour moi, il y a évidemment quelque chose qui va au-delà. Bon, je vous passe cette image scientifique, mais c'est pour vous montrer que c'est un décor qui n'est pas de surface. Toutes les petites sphères que vous voyez sont enfouies sous le niveau de la glaçure. Donc c'est un décor qui nécessite une grande dextérité, surtout au moment de la cuisson, et qui est donc un décor de luxe qu'on trouve bien sûr sur des objets luxueux. Voilà une vue de la présentation actuelle dans notre département. Et donc ces carreaux que je vous montre en fait sont présentés, voilà, sont recomposés ici. Nous avons bénéficié du dépôt du musée des arts décoratifs qui nous a permis de reconstituer des ensembles dont malheureusement on ne connaît pas forcément la provenance. Pour les carreaux que je vous ai montrés et cet ensemble-là, on pense qu'ils proviennent de l'Imamzadeh Jafar à Damrhan. Ils auraient été réemployés dans ce monument, mais malheureusement, dans nos registres d'inventaire, rien ne le prouve réellement. On s'appuie simplement sur le témoignage d'un ministre de l'époque Qadjar au XIXe siècle qui en a livré une description avant qu'il n'ait été enlevé de leur monument non pas d'origine, puisque l'Imamzadeh Jafar n'était pas le monument d'origine, mais de l'endroit où ils avaient été observés au XIXe. Et c'est bien le drame de ces carreaux, c'est qu'entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, ils ont été pris, volés, vendus, soit par des collectionneurs avides, ou aussi, il y a une chercheuse japonaise qui a fait des recherches là-dessus, ben voilà, on sait que pour Varamine, les carreaux étaient vendus par le maire du village. Donc, on est face à un immense puzzle, puisque ces carreaux, riches en informations, riches en inscriptions poétiques, ont été dispersés dans les collections, il en reste en Iran, mais très peu sur les monuments, mais aussi européennes et américaines. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de lancer ce projet auquel faisait allusion Samra, qui porte le nom de Medieval Koshi Project, et le temps passe vite, donc je ne vais pas vous le présenter dans le cadre de cette intervention, mais vient de sortir un numéro de hors-série de la revue Grande Galerie, publié par le Musée du Louvre, consacré à la recherche au Louvre. 6 projets de recherche du Musée du Louvre sont présentés, dont celui-ci. Donc si vous voulez en savoir plus, voilà, vous pouvez consulter ce hors-série. En tout cas, dans un premier temps, les axes de recherche de ce projet, les premiers axes de recherche, se concentrent sur l'étude des inscriptions des étoiles et des croix, parfois sur certaines croix, mais essentiellement des étoiles, afin de mieux cerner cette production. Car dans ces inscriptions, qui sont en général poétiques, parfois on a des versets coraniques, il y a des dates, il y a des noms d'ateliers, parfois même des noms d'artistes. Donc l'idée, c'est de mieux connaître cette production, son contexte de création, en partant à la recherche, en prospectant un maximum de collections, toutes ces données historiques tangibles. On sait que ces carreaux étaient produits à Cachan. Les sources écrites nous les indiquent, mais certains de ces carreaux portent la mention faite à Cachan. Et donc là, ils vont nous intéresser, puisque certains d'entre eux, comme celui que vous avez sous les yeux, portent des vers du Shahnameh. Ce carreau avec, ces animaux, je ne sais pas comment on peut les identifier, maintenant j'ai plutôt tendance à croire qu'il s'agit de hyènes, porte des vers du chanamé. Donc vous voyez qu'on a associé des bêtes du chanamé à une iconographie, à une représentation qui n'a absolument rien à voir avec, voilà, avec l'image. Donc, voici les vers du chanamé qu'on peut trouver sur ces carreaux. Samra va avoir la gentillesse de les lire en persan parce que tu me disais que dans le cadre de ce séminaire, il y avait finalement peu d'occasion d'entendre le chanamé.
کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک آید از جوی بار هوا پرخروش و زمین پرز جوش شده قصبه و دشت و لاله شده قصبه و دشت لاله فروش همه بوستان زیر برگ گل است همه کوه پر لاله و سنبل است به پالیز بلبل بنالد همی گل ز ناله او ببالد همی ز لاله فریب و ز نرگس عتاب ز سنبل نهیب و ز گل ناز و تاب.
Je vais vous lire la très belle traduction de Pierre Lecoq, encore inédite mais qui va bientôt paraître. Il avait eu la gentillesse il y a quelques années de nous la confier. Il nous faut à présent boire un vin capiteux, car le parfum des outres vient de haut lieu. L'air est plein de cris et la terre s'émeut. Content celui qui boit et s'en trouve heureux. Le verger prospère sous les frondaisons, la montagne dispose de tulipes à profusion. Dans le jardin, le rossignol gémit et pleure, ses tristes plaintes font prospérer les fleurs. C'est un extrait de l'histoire de Gochtasp, et ces bêtes interviennent dans l'épisode du retour d'Esfandiar auprès de Gochtasp. Et je pense que ce thème du chanamé hors du livre pourrait donner lieu à un séminaire à lui seul, puisque il serait intéressant de discuter avec vraiment des spécialistes du texte du choix, pourquoi le choix de ces bêtes-là et d'avancer. Et j'espère que dans le cadre du projet dont je vous parlais, puisque même si dans un premier temps, sa première phase de 5 ans, je m'intéresse aux conditions historiques de la production, mais aussi j'entends collecter toutes les informations de provenance. Elles sont rares à trouver, mais celles qui sont préservées, il faut très vite s'en emparer, mais j'espère que dans un deuxième temps, il pourra avoir un vrai travail littéraire fait sur ces inscriptions. Alors, je vais vous présenter les différents carreaux, mais je vais m'arrêter plus particulièrement sur cet exemple. Pardon. Sur cet exemple de carreaux donc des collections des arts décoratifs, donc qui sont en dépôt au musée du Louvre en ce moment, parce qu'avec ces carreaux, puisque nous en avons deux, nous sommes au plus près du cœur de notre sujet et nous sommes face à un témoin du processus d'iranisation des souverains mongols. Ce processus de persianisation, iranisation que j'ai évoqué pour la période 950-1150, il est encore plus fort, mais aussi on le connaît mieux pour la période mongole. Ce carreau appartient à une série de carreaux identifiés à partir d'un unique fragment retrouvé sur le site même de Tarté Souleyman en Iran. Alors, je vous avais mis une carte. C'est un site, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, au nord-ouest de l'Iran, ici. Je vais plutôt revenir donc sur le carreau. Donc, sur le site, on a trouvé un fragment, vraisemblablement appartenant à ce type de carreau. On doit cette identification au docteur Melikian Shirvani, qui a publié des articles majeurs et passionnants sur ce sujet, notamment dans les années 86. Ce sont ces travaux que je vais vous exposer brièvement, afin que vous compreniez toute l'importance de ces pièces, par ailleurs de qualité modeste, si on les compare à des carreaux comme ceux que je vous ai présentés précédemment. Ils sont tous donc sur le même modèle, de forme carrée, d'environ 30 cm par 30 cm. Ils présentent un bandeau horizontal en léger débord par rapport au champ principal, qui encadre, avec une étroite bande saillante en bas, une arche trilobée, dont les contours enferment une inscription en graphie cursive qui reproduit presque invariablement un hémistiche entier du chanamé. Melikian Shirvani identifie cette arche à l'arche turquoise, qui dans la poésie persane désigne métaphoriquement la voûte céleste, qui est elle-même la métaphore de l'univers. Par ailleurs, le motif de l'arbre parlant, vous voyez ici des rinceaux avec des têtes d'animaux. Dans les illustrations du chanamé même, ce sont parfois des têtes de personnages, renvoie quant à lui au cycle d'Alexandre, Iskandar, qui, au bout de sa quête, arrive devant cet arbre qui lui rappelle sa fin prochaine et qui lui rappelle qu'il n'est qu'un humain face à la puissance de Dieu. Il convient, avant de poursuivre, de présenter le site de Tarté-Souleymane et d'en rappeler l'importance historique. Il s'agit du site sassanide de Chise, sur lequel les Mongols ont reconstruit un palais. Importance du site et tout particulièrement du sanctuaire d'Azargoshnasp. À l'époque pré-islamique, il s'y déroulait la seconde cérémonie de couronnement des rois sassanides. D'ailleurs, je vous ai mis pour parler de tout ça, je ne sais pas si la photo rend bien, mais une photo de ce site qui est vraiment magnifique, un des plus beaux sites de l'Iran. Donc, il s'y déroulait la seconde cérémonie de couronnement des rois sassanides qui s'y rendaient en pèlerinage à pied après avoir été couronnés à Ctésiphon. Les historiens et les géographes arabes en soulignent l'importance dès le IXe siècle et Massoudi, dans le livre de l'avertissement au Xe siècle, confirme le renseignement et donne même une description du palais qui s'y trouvait. Il dit « Il s'y trouve aujourd'hui encore des vestiges étonnants, des images des cieux, des étoiles, du monde et de ce qui s'y trouve, terre, mer, régions cultivées, plantes, animaux et autres choses étonnantes de la création. » On comprend qu'il est le symbole de l'univers. Et au-delà, le symbole essentiel du pouvoir universel exercé par les empereurs sassanides. Donc, et ça, les Mongols, l'Iranides, l'avaient en tête. Et je vais vous dire dans un instant dans quelles conditions. Bon, en tout cas, l'identification de Tarté-Souleymane avec l'emplacement du temple du feu d'Azargoshnasp ne fait aucun doute. La découverte sur le site de Sceaux sassanides en Pélévi, au nom d'Azargoshnasp, l'ont confirmé. Dans le Shahnameh même, le site de Tarté-Souleymane est mentionné, associé à la figure du grand roi Khosrow. Ferdowsi décrit le grand roi de l'Iran antique pénétrant dans la ville. Plus loin, les rois Kekavus et Khosrow, après avoir triomphé d'Afrasiab, le croit-il, ennemi de l'Iran, se rendent en pèlerinage au sanctuaire pour y rendre grâce à Dieu. Et y est décrit tout un rituel. Ils sont vêtus de blanc, ils procèdent à des ablutions. Toute la présentation fait de la religion des rois de l'Iran antique un mouvement monothéiste à caractère ésotérique qui préfigure l'islam. Khosrow apparaît dans le Shahnameh comme un grand initiateur. Donc là, vous voyez le décor entre passé et présent est perpétuel. Je cite Melikian Shervani, « Le Shahnameh est devenu le modèle archétypique du destin iranien dans lequel les générations successives des sociétés iraniennes ont cherché la clé du présent. » Et c'est sur les conseils, évidemment, de l'élite intellectuelle iranienne recrutée par les souverains mongols que ces derniers réinvestissent le site, leur permettant de s'inscrire dans la continuité des grands souverains de l'Iran ancien et d'affirmer ainsi, par l'identification au passé, leur légitimité, tout simplement. Un mot sur cette élite iranienne. Pour Melikian Shervani, c'est le grand lettré qui a inspiré... qui a inspiré aux Ilran la reconstruction du palais sur le site de Chise et qui fait du Shahnameh l'instrument d'une politique d'assimilation culturelle du conquérant mongol, ce grand homme est Ala al-Din Atta Malek Juvayni, secrétaire particulier du mongol Argun, qui a régné de 1284 à 91, puis qui est devenu gouverneur de Bagdad. Il était l'alter ego de son frère, Shams al-Din, secrétaire général du gouvernement sous Abakaran, qui lui a régné juste avant, de 1265 à 1281, souverain qui a relevé Tarté-Souleymane de ses ruines. Son grand ouvrage, L'histoire du conquérant du monde, où il consigne ce qu'il a pu apprendre sur les Mongols et la terrible conquête du monde iranien par Gengis Khan, est émaillé de citations, parfois remaniées, du Shahnameh. Ce sont ces citations, ces mêmes vers que l'on retrouve sur certains des carreaux retrouvés ou attribués à Tarté-Souleymane. Donc ces carreaux du type de ceux que je viens de vous présenter. Ces citations sont soit directement issues du texte ou parfois aménagées, transformées. Donc pour Melikian Shervani, le grand Juvayni n'est pas le seul artisan de cette reconstruction. Selon lui, le ministre historien avait à ses côtés un savant, à la fois astronome, mathématicien minéralogiste pardon, et poète d'occasion, très influent auprès des Ilranes. Auprès d'Oulagou, puis après d'Abakaran, il s'agit du très célèbre Nassir al-Din Toussi. C'est lui qui a reçu l'ordre de fonder l'observatoire de Maraga, et certaines inscriptions ornant les carreaux de Tarté Souleyman sont marquées par l'empreinte chiite. Et parmi les Iraniens lettrés, seul Nassir al-Din Toussi est chiite déclaré, puisqu'à cette époque-là, les Mongols ont embrassé l'islam sunnite. Ce sera le souverain Ujaïtou qui se convertira au chiisme à la fin, au tout début, au tournant du XIIIe et XIVe siècle. Et au-delà, toujours selon Melikian Shirvani, c'est l'influence du mouvement mystique illuminationniste fondé par Sohrawardi qui s'exprime à travers le programme décoratif. Selon Melikian Shirvani, la frise à laquelle appartient ces carreaux datent des années 1280 et a été réalisée en l'honneur de l'accession au trône du successeur d'Abaka, Ahmad, qui accède au trône en 1282-84. Melikian Shirvani parle d'édition sur céramique en fait du Shahnameh sous les Ilranes. Mais il note que dans deux cas, c'est intéressant à vous le transmettre, le texte a été modifié pour passer de la troisième personne à la seconde personne du singulier pour s'adresser directement au maître du palais et l'élever ainsi au rang des rois de l'Iran ancien. Il est celui qui, à travers ses inscriptions, est doté de la gloire de Feridoun. Il est le second Alexandre, et ça c'est souvent un qualificatif qui apparaît même dans les décors monumentaux de stuc à l'époque iranienne, notamment à Bastam. Voilà, donc les vers choisis ne sont pas choisis par hasard pour orner ces carreaux. Ils présentent différentes parties du roman. Ce n'est pas une narration continue, il y a un choix évidemment, tout un programme de propagande. Je vais vous présenter, donc à présent vous faire défiler les carreaux de nos collections avec des vers du Shahnameh, donc ces fameux carreaux. Donc là, vous avez juste un hémistiche.
Je lis ce qui est écrit sur le carreau. Hami oyad az bustan buye mushk. Et voici le vers du Shahnameh. Ketor in beheshtast yo bustan, hami mushk oyad, hami buye mushk oyad az bustan. C'est là qu'on voit le processus d'édition sur carreau.
Et là, vous avez donc simplement la partie du jardin. Il venait une senteur de musc sur ce carreau-là. Nous en avons donc un deuxième, vous voyez, qui est tout à fait sur le même modèle. Et là, je n'avais pas la traduction en français, mais tu vas...
Non, continue.
Bon, je continue, parce qu'on a beaucoup de choses. Et je quitte un peu les inscriptions pour vous montrer qu'on attribue aussi à ce site d'autres carreaux. Pardon. Qui n'ont pas d'inscription, mais on voit des guerriers, des cavaliers qu'on associe bien évidemment au Shahnameh. Donc là, c'est tout un travail que les chercheurs mènent de réattribution de ces carreaux. Donc nous les avons présentés dans nos salles. Voilà, on a toute une partie sur la partie de cette image sur le Shahnameh. Donc on a associé ces carreaux sans aucune ambiguïté à d'autres, à cette étoile, selon une chercheuse japonaise qui travaille sur Tarté Souleyman, elle pense que ce carreau en provient. L'épigraphe Abdullah Rouchani avait vu ici des vers, enfin un fragment d'un hémistiche du Shahnameh, mais je ne voulais pas montrer parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mots pour pouvoir y conclure aussi hâtivement. Donc je vais vous montrer quelques étoiles de revêtement avec des vers du Shahnameh. Vous voyez que le programme est très ambitieux à travers ces vers et que finalement on est souvent face à des étoiles de pauvre qualité, ainsi que celles que vous avez sous les yeux. Donc il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Malheureusement, pour ces carreaux de nos collections, on n'a aucune indication de provenance. Donc j'espère que le projet que j'ai lancé nous permettra d'avancer là-dessus. Sur ce carreau, c'est un extrait de l'introduction du Shahnameh, la louange à Dieu.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده پیکر است.
Bon, la traduction de Monsieur Lecoq est très belle, mais ne peut pas être aussi belle que ces vers du Chanamé. Comme le temps passe très vite, voilà, vous l'avez ici en français, je ne vais peut-être pas les lire tous. Ce qui est intéressant, là, on est sur le début du texte. Bernard O'Kane avait noté que souvent, sur les carreaux, alors pour les carreaux du Louvre, ce n'est pas toujours le cas, mais j'avais trouvé l'idée intéressante. Était reproduit le début des épisodes. Donc, il se demandait si ce n'était pas finalement un peu comme un aide-mémoire, puisque, comme toujours en Iran, beaucoup connaissaient par cœur des passages entiers du Shahnameh. Donc, il se demandait si ce n'était pas un aide-mémoire pour le spectateur, le vers, comme ça, il lisait le vers et le reste lui revenait en mémoire, il pouvait continuer, quel que soit le spectateur ou même les conteurs. Après, on n'a aucune information, bien sûr. Ces carreaux étaient plutôt dans des monuments religieux, funéraires. On ne sait pas si au sein de ces édifices, il y avait des rituels, le Shahnameh était compté. Évidemment, je pense qu'il y avait toute une tradition orale attachée qu'il est évidemment difficile d'appréhender avec assurance. Mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'avoir en tête, surtout dans ce contexte chiite teinté de soufisme, puisque c'est vrai que ce texte, au-delà de son caractère d'épopée historique, peut révéler des sens cachés. Autre carreau de nos collections, avec des vers du Shahnameh, et c'est à nouveau des vers tirés de l'histoire de Goshtasp, de cet épisode du retour d'Esfandiar auprès de Goshtasp, associé à des formules de vœux qui ne sont pas issues du Shahnameh.
Hame bustan zir barg gol ast, hame kuh por lale o sombol ast. Be paliz bulbul benalat hami, gol ze nale o bebalat hami. Ze lale farib o ze narges etab, ze sombol nahib o ze gol naz o tab. Mais il me semble que je l'ai déjà lu.
Oui, mais ce n'est pas grave, c'est toujours magnifique. Donc vous voyez, quand vous lisez la traduction, le verger prospère sous les frondaisons, la montagne dispose de tulipes à profusion, dans le jardin le rossignol gémit et pleure, mais nous sommes loin d'avoir des rossignols, ce sont plutôt des pans au cou entrelacés sur ce carreau. On a un jardin, mais le décor n'est pas à l'unisson du contenu du texte, un phénomène donc intéressant à noter. Ici, un fragment avec un animal qui se rapproche des hyènes de tout à l'heure, avec là encore, c'est à nouveau le même texte, mais avec évidemment le carreau est fragmentaire, on a moins de vers, mais c'est curieux de voir combien des extraits de ce moment de l'ouvrage apparaissent sur nos carreaux. On ne va pas faire évidemment de conclusion hâtive, mais c'est pour ça aussi que je pense que ce projet que j'ai lancé est précieux, parce que quand on s'intéressera, quand on aura compilé toutes ces inscriptions, on pourra vraiment, certains carreaux ont disparu, mais on pourra plus assurément pouvoir conclure sur les épisodes qui intéressaient du Shahnameh, qui intéressaient plus particulièrement les commanditaires. On a pour l'instant une perception encore trop fragmentaire. Un carreau assez remanié, retouché, mais bon, je vous montre au passage, il y a des parties qui sont ici, qui ont été refaites, mais il est encore curieux de constater qu'on est encore une fois face au même... le temps passe très vite, au même extrait. Et je voudrais vous montrer aussi des objets. Cette étoile à décor de lotus, c'est un type d'étoile qui apparaît dans les années 1290. Là, vous avez un motif qui emprunte au répertoire chinois. Évidemment, par leur contact avec leurs cousins, la dynastie des Mongols de Chine, on a vraiment tout le répertoire décoratif iranien à cette époque est revivifié par des influences chinoises. Et sur cette étoile, finalement, décor presque banal de lotus, puisque le lotus fleurit vraiment à cette époque-là sous les Mongols, On a des vers poétiques très, très intenses qui sont associés finalement à ce paisible décor floral. Ces vers sont des vers issus de l'épisode, c'est dans l'histoire de Cacaous, d'Obeid de la mort de Sohrab, Sohrab le fils de Rostam. Donc là, c'est vraiment parmi les vers les plus douloureux et les plus tragiques du Shahnameh, puisque le grand héros Rostam combat, combat un adversaire et triomphe sur cet adversaire, mais il ne connaît pas l'identité de cet adversaire, qui s'avère en fait être le fils qu'il n'a pas vu grandir. Donc là, vraiment, et il est vrai que les inscriptions jusque-là nous ont transmis des moments plutôt paisibles, plutôt liés à une atmosphère, un climat. Là, on est vraiment face à un moment clé de l'ouvrage. Voilà. Donc, je pense que ça peut être lu.
Az in namdaran gardan kishan, kasi ham barad suye Rostam nishan, ke Sohrab kushtast o afkande khar, tora khast kardan hami khastar, ke Sohrab kushtast o afkande khar, tora khast kardan hami khastar.
La traduction étant, alors malheureusement là c'est bon, la traduction de Jules Moll, un de ses grands, un de ses fiers guerriers attestera à Rostam que Sohrab a été tué et jeté à terre misérablement pendant qu'il cherchait son père. Voilà.
Et c'est le moment clé de l'histoire parce que c'est là
oui,
que Rostam se rencontre.
Voilà, c'est vraiment le moment clé de l'histoire. Et alors, en plus, ces vers sont reproduits sur un type d'étoile qui vraiment, à partir des fin 13e siècle, début 14e, est un type très commun d'étoiles. Malheureusement, on n'a aucune information de provenance sur ce type d'étoiles. Dans le cadre du projet dont je vous parle, j'ai à cœur d'essayer de prospecter un maximum de monuments pour essayer de retrouver ne serait-ce qu'un fragment de branche. Ça peut nous permettre d'associer un type d'étoile à un monument et donc d'avancer sur ceci. Ça a été le cas au Pir Bakran, près d'Isfahan, où toutes les étoiles de luce métallique ont été enlevées, mais dans les hauteurs, en montant, eh bien, j'ai réussi donc à trouver deux petites branches voilà, qui permettent d'associer une typologie d'étoiles à un monument. Donc, j'espère un jour retrouver de ce type d'étoiles lustrées dans un monument clé. Je pensais avoir enlevé celle-ci, parce qu'en fait, il n'est pas certain que ce soit des vers du Shahnameh, mais ça vous permet de voir le type... le type d'iconographie, ici un dromadaire. Et pour finir avec les carreaux de revêtement, on a quelques exemples, de plus rares exemples de vers du Shahnameh sur des étoiles, donc une autre technique. Ici, simplement une étoile avec un décor qui, je pense, n'est pas moulé, mais plutôt appliqué. Ça se lit dans le traitement. Un glaçure monochrome. Pardon, on connaît mal cette série d'étoiles qu'on attribue entre la fin 12e, 13e, peut-être même début 14e. Elle fait une vingtaine de centimètres de diamètre comme les étoiles lustrées, donc j'aurais tendance à la situer plutôt, fin 13e, début 14e. Et là encore, on retrouve cette fois-ci l'introduction, la louange à Dieu du Shahnameh. Il y a un phénomène assez curieux et intéressant à noter, c'est que les hampes des lettres, l'inscription est dans l'autre sens, les hampes des lettres sont vers l'intérieur, ce qui est très singulier. En général, l'inscription se déroule dans l'autre sens. Pour terminer avec les carreaux, puisque j'évoquais les collections du Louvre, et pour passer aux représentations du Shahnameh dans l'iconographie, voilà, je voulais vous montrer ces deux carreaux qui illustrent, alors voici le premier, un thème très fréquent sur les objets tirés de l'épisode du roi Sassanide, enfin qui relate le règne du roi Sassanide Bahram-e-Ghur, où on le voit donc juché sur un chameau avec sa fiancée, la terrible harpiste Azadeh, qui lui demande les exploits les plus incroyables et les plus cruels, comme ici on le voit percer d'une seule flèche la patte et l'oreille d'un animal. Et elle lui demande à chaque fois des prouesses de plus en plus compliquées. Elle lui demande aussi, je crois, de faire ce sont des gazelles, je crois, de faire d'une femelle un mâle, et là on voit un animal. En fait, c'est les deux flèches de Bahram et Gur qui sont plantées dans la tête de l'animal. Et à la fin, elle n'est jamais contente et il la balance du chameau. Et c'est très curieux parce que ce thème est extrêmement populaire. Enfin, donc il faudrait aussi, avec des spécialistes de la littérature, creuser ce thème-là. Nous avons, je trouve le remontage très laid, je m'en excuse, mais bon, voilà, aussi dans une technique qui se développe, et vous allez voir des objets de cette technique à la fin du XIIe, début XIIIe siècle, là on est au contraire avant l'invasion mongole, parce qu'avant l'invasion mongole, le chaname est plus présent sur les objets en tant qu'iconographie. Il y a des vers reproduits sur les objets, mais la représentation de scène est plus courante. Et pourquoi est-ce que je vous ai remis une carte? Je ne sais pas, peut-être pour vous montrer le centre de Cachan. Oui, parce que je voulais vous évoquer, puisque les objets que je vais vous montrer là dans un premier temps sont des objets issus de ce grand centre de production céramique de l'Iran médiéval, Cachan, qui produit les pièces de céramique les plus fines, les plus riches, à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment l'époque où toutes ces inscriptions viennent s'inscrire sur les objets. Et justement, ce grand centre développe un type de céramique façonné dans une pâte qu'on appelle siliceuse. C'est une pâte artificielle enrichie en silice, en quartz pulvérisé, donc qui devient très dur à la cuisson, ce qui permet d'obtenir des objets aux parois extrêmement fines. Et dans le cas de cet objet, dont la base est reconstituée, hein, malheureusement, vous pouvez vous en rendre compte sur la vue de droite, on a même repercé l'objet. Pardon, je suis désolée. Je vais boire. Et toute la physionomie, en fait, des pièces produites change à cette période-là. Je vous ai quand même montré cet objet si on n'est absolument pas sûr qu'il s'agisse d'un objet en relation directe avec le chaname. Bon, il illustre en tout cas ce goût pour la littérature dans les décors des objets à cette période. Il s'agit d'une chasse au félin, donc forcément on pense à Bahram et Gur. Il y a dans la partie inférieure, je ne sais pas si c'est perceptible, une inscription, mais qui est tellement mêlée aux éléments végétaux du fond qu'elle est illisible. Plusieurs personnes se sont usées les yeux, notamment Samra, Francis Richard, et aussi Madame Pirounet qui était venue, mais on n'a jamais réellement réussi à avancer là-dessus. Madame Pirounet qui avait pensé aussi au... Parce qu'il y a un berger à un moment qui intervient dans l'histoire de Bahram Gur, mais qui est âgé, là. Et ce personnage à la chevelure bouclée qui se distingue vraiment des autres personnages qui ont vraiment le type asiatique turc. Bon, est-ce que... Voilà, ça c'est un objet, j'espère qu'on avancera un jour sur la connaissance de cet objet. Quelques exemples, parce que je vois qu'il est bientôt l'heure de terminer, d'objets avant la conquête mongole, avec des vers ou une iconographie liée au chaname, donc cette coupe de la collection Al-Saba au Koweït, à des corps peints sous glaçure, où les vers, ici, vous voyez, se disposent, sont gravés dans ce qu'on appelle de l'engobe, de l'argile fine diluée de couleur noire, voilà, dans les zones radiantes. Pour revenir, voilà, c'est un exemple sorti des collections du Louvre, et je crois que cette pièce n'est pas datée, mais il y a des pièces datées de ce type-là, bleu et noir sous glaçure, qui sont datées dans les années 1204. Donc là, on les attribue vraiment avec certitude. Dans les collections du Louvre, cette coupe fragmentaire illustrée d'une scène très populaire sur les objets, et là, je vais vous montrer plusieurs objets où cette scène revient. Il s'agit du grand justicier, vengeur, Feridun, qui a capturé Zahak, le triomphe du bien sur le mal. Alors, la figure de Zahak, c'est pas très lisible sur cette pièce, est ici. Avec ses petits serpents, c'est le moment donc, où il l'emmène au mont d'Amoed. Alors, Cette scène est très populaire, là aussi, ce sera intéressant de travailler avec des historiens de la littérature. Est-ce parce que c'est un moment où une espèce d'âge d'or avant le terrible fratricide des fils de Feridoun, peut-être, et ça illustre bien sûr cette victoire du bien sur le mal. Je vous ai mis une photo du revers parce que je trouvais ça assez intéressant de voir cette glaçure bleue sous la base. Je tenais à vous présenter ce très célèbre gobelet des collections de la Frère Galerie de Washington, avec une scène du Chaname, on en est sûr, parce que ce n'est pas visible sur cette vue, mais il y a des petites inscriptions à côté des personnages. Bon, malheureusement, je n'avais que la vue de ce côté-ci, et on sait que c'est l'histoire, une scène tirée de l'histoire de Bigène et Maniget. Vous voyez ici qu'il se déroule vraiment, véritablement, comme une bande dessinée. La technique polychrome que vous avez sur ces objets-là est une technique qui apparaît dans le dernier quart du XIIe et qui est produite jusqu'aux invasions mongoles, qu'on appelle, nous l'appelons nous le haftrang, ce qui veut dire sept couleurs en persan, mais l'appellation haftrang en persan même désigne une autre technique. En persan, on appelle cette technique minoy. Donc en fait, à l'aide des mots en fait, qu'on cuit à différentes températures, à chaque fois plus douces, on obtient donc cette riche polychromie. Donc ces objets-là sont forcément produits avant la conquête mongole. Je voulais vous montrer aussi cette coupe qui a été vendue par Sotheby's en 2011, qui était dans la collection Plotnik, où vous retrouvez ce thème de Feridoun sur sa vache et qui emmène Zaak au mont d'Amavend. Une autre, ici, toujours de cette technique Haftrang de la Kerr Collection. Et une scène, alors je vous ai quand même laissé cette pièce parce qu'elle est datée de 1219, donc on a la chance aussi d'avoir des pièces de forme, pas que des carreaux, datées, et elle a été interprétée comme le retour du roi sassanide Bahramgour du Sindh avec sa fiancée indienne Sapinoud. Bon, ça c'est totalement une interprétation puisque rien dans les inscriptions ne l'indique. Mais de toute façon, ce chaname était très présent dans les esprits, dans la culture, donc ça pourrait être le cas. Je vous ai montré beaucoup de céramiques, mais je tenais à vous montrer aussi des métaux. Ici, un chandelier préservé dans nos collections et que vous pouvez voir dans les salles. On retrouve à nouveau, alors il me semblait avoir mis en grand, ah non zut, je n'ai pas mis le détail en grand. Voilà, vous voyez, mais c'est quand même très visible ici, Feridoun sur sa vache et Zaak avec, voilà. Alors, ces métaux étaient incrustés de plaques d'argent et chaque plaque était gravée, vous aviez tous les détails. Donc, on devait avant voir plus clairement les têtes des serpents sur les épaules de Zaak. Je tenais à vous montrer aussi ce bassin du Victoria Albert Museum qui présente multiples scènes du Chaname. Là, on n'a pas seulement Zaak capturé par Feridoun, on a aussi Bahramgour et Azadeh, l'investiture du premier roi, Gayoumart. L'objet est vraiment très bien illustré sur le site du Victoria Albert Museum, donc je vous invite à aller voir les détails de plus près. En voici un, j'ai évidemment choisi celui de Feridoun et Zaak. J'ai presque fini, je vais conclure.
Non, pas de problème, pas de problème. Encore 10 minutes.
Tu m'avais dit 50 pour les questions, mais 5 minutes. Pardon. Et pour conclure, en fait, cette photo est très moche, mais je vais vous en montrer dans un instant de plus belle. Donc, après cette période pré-mongole, cette période mongole, les objets, le décor architectural s'appauvrit en scène du Chaname, en verre du Chaname. Ils disparaissent totalement. Le décor architectural de carreaux que vous avez vu, ce type de carreaux qu'on trouve jusqu'au milieu du XIVe siècle, sera remplacé peu à peu par de la mosaïque de céramique. On aura essentiellement des compositions géométrico-florales. Il n'y aura plus cette volonté de narration à travers les décors. Donc voilà, tout ça peu à peu disparaît au fil de la fin du XIVe, XVe, XVIe siècle. Le Chaname est présent toujours dans le livre. Par exemple, à l'époque safavide, on a des manuscrits extraordinaires au début du XVIe siècle. Le grand Chaname fait pour Chatamaspe, ou même au début du XVIIe, Shah Abbas encore à Ispahan commande un Chaname. Mais sur les objets, Les inscriptions sont plutôt des vers de Hafez, des vers de Saadi. À notre connaissance, bien sûr, on peut toujours trouver un objet qui vient contredire ceci, le Shahnameh tend à disparaître hors du livre. Mais à l'époque Qadjar, et puisque le sujet de cette conférence était les collections du Louvre, je voulais vous montrer cet encadrement de fenêtres qui est à l'heure actuelle présenté au musée du Quai Branly. Les détails étaient très moches, on ne voyait pas grand-chose. Mais les personnages que vous avez ici sont des personnages du Shahnameh désignés. Alors, je vous invite à aller voir la pièce en vrai, par leur nom, qui, comme c'était le cas sur le gobelet de la fin du XIIe, début XIIIe siècle, à côté des personnages, est inscrit leur nom, donc on les identifie sans aucune ambiguïté. Donc pour terminer, pour vous montrer ce revival du goût pour le Shahnameh, forcément, la dynastie Qadjar s'inscrit dans la lignée des dynasties, des périodes médiévales. Il y a forcément une volonté de légitimation derrière cette démarche, favorise réellement dans l'iconographie décor architectural. Donc là, grâce à Kianush Motahedi, ici présent, chercheur iranien, j'ai pu avoir quelques beaux clichés de décor architectural, mais aussi sur certains objets, on retrouve donc cette iconographie du Shahnameh. Donc vous avez ici un exemple de Rostam, tuant le div blanc, c'est à Shiraz, à la citadelle de Kalimron. Même à Téhéran, au Golestan, ça a été détruit malheureusement sous les Pahlavis, mais on conserve à Boulogne des autochromes au musée Albert Kahn, où on voit un ensemble de carreaux de ce type-là, où au Golestan, il y avait cette iconographie de Rostam tuant le div blanc. Ici, une représentation de Tamouraz. C'est au musée Mokadam, à Téhéran. Voilà, j'en avais quatre très beaux, je n'ai pas pu me décider. Donc, en conclusion, Kekaous, en personne, sur une série de carreaux en grisaille, qui sont, j'avoue, particulièrement séduisants. Là aussi, c'est dans une maison de Téhéran. Et pour finir, et c'était intéressant de voir les différences aussi de qualité. On a des carreaux vraiment d'une grande qualité, d'autres plus modestes, mais qui ont beaucoup de saveurs ici, Rostam et Bigène. Rostam sort Bigène du puits, c'est à Kirmancha, à la Taqiyé Moaven, Al-Molk. Vous avez donc ce carreau. Donc je conclus avec ce revival du Shahnameh sur les carreaux iraniens. Et si vous avez quelques questions, je crois qu'on a 5 minutes, 7 minutes.
Merci.
Je vous en prie.